Excellent réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des scènes de guérilla urbaine en Bolivie, l'ex-président du pays dans un avion pour le Mexique qui lui offre l'asile. On fera le point avec nos correspondantes en Amérique latine après la démission annoncée dimanche d'Evo Morales.
Quatre personnes blessées dont une grièvement après un séisme en Ardèche hier à titre préventif. La centrale nucléaire de Cruas s'est arrêtée pour mener un audit approfondi.
Deux cadres du parti Les Républicains seront reçus ce matin par le ministre de l'Intérieur à 5 mois des municipales. Xavier Bertrand et Bruno Retailleau souhaite interdire les listes communautaristes. Un géant, toujours plus géant, Disney lance aujourd'hui aux États-Unis une plateforme de vidéos en ligne concurrente de Netflix. Elle s'appelle Disney+. Et la question du jour, Guillaume.
Dans une dizaine de minutes, Margot, existe-t-il une solution pour Haïti? On posera la question à un écrivain haïtien, Lionel Trouillot.
Qui pour succéder au président démissionnaire bolivien Evo Morales? Le Parlement doit siéger aujourd'hui pour nommer un remplaçant par intérim. Et ce n'est pas simple. Les successeurs prévus par la constitution du pays ont également démissionné dimanche. Le vice-président, la présidente du Sénat et son numéro 2, ainsi que le dirigeant de la Chambre des députés. Le pouvoir est donc vacant et les manifestations continuent depuis 3 semaines et un scrutin frauduleux, selon les opposants, remporté par Evo Morales. Hier, des postes de police ont été incendiés à El Alto, bastion de l'ex-chef de l'État. Et ses partisans s'en sont pris aux forces de l'ordre. En Bolivie, Alice Campagnol.
Dans la ville de El Alto, voisine de La Paz, des groupes de choc se sont armés hier, prêts à en découdre avec l'opposition et criant « Maintenant ça y est, c'est la guerre civile ». Les habitants apeurés sont restés terrés chez eux toute la journée, les yeux rivés sur les réseaux sociaux où circulaient beaucoup de fausses informations qui ont fait monter la tension, comme l'état de siège est décrété ou encore des groupes de combattants sont déjà dans la ville. Mais ce que tous attendaient hier, c'était l'annonce du général des armées, William Kalimann.
Nos forces de police se sont retrouvés débordés. Et en raison de son devoir constitutionnel, l'armée a accepté de travailler au maintien de l'ordre, main dans la main avec la police.
Les militaires se sont donc alliés aux forces de police pour faire revenir le calme dans la capitale. Si cette intervention était réclamée par beaucoup de citoyens, c'est une décision qui rappelle des moments noirs de l'histoire bolivienne. Mais le général Kalimann a tenu à rassurer les Boliviens.
Jamais les forces armées n'ouvriront le feu sur le peuple.
Des violences continuent à éclater dans les rues de La Paz et de El Alto, tandis qu'Evo Morales a annoncé sur Twitter dans la soirée son départ pour le Mexique qui lui a offert l'asile.
Evo Morales qui est donc monté à bord d'un avion militaire mexicain hier soir, Emmanuel Stills.
Je pars vers le Mexique, reconnaissant envers le gouvernement de ce peuple frère qui m'offre l'asile. Sur Twitter, Evo Morales annonçait hier soir sa décision de quitter la Bolivie pour y revenir prochainement avec plus de force et d'énergie, selon ses mots. Destination, le Mexique, gouverné par un président de gauche, López Obrador, qui avait manifesté son soutien au leader sud-américain. Son gouvernement avait d'ailleurs qualifié la situation en Bolivie de coup d'État. En fin de journée, les événements se sont précipités et le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, répondait positivement à la demande formelle d'Evo Morales. L'asile lui serait accordé sur le champ pour des raisons humanitaires, considérant que sa vie et son intégrité physique étaient en danger en Bolivie. Sur sa première photographie en exil, Evo Morales s'est installé dans un avion de l'armée mexicaine tenant un drapeau de ce pays, volant de sa région de Cochabamba vers Mexico. En recevant l'ancien président bolivien, le Mexique fait honneur à une longue tradition d'accueil de réfugiés politiques. D'autres responsables boliviens pourraient d'ailleurs rejoindre Evo Morales dans son exil mexicain.
La correspondance au Mexique d'Emmanuel Stills. La contestation à Hong Kong, cette fois toujours des perturbations dans les transports ce matin. Plusieurs universités ont annulé leurs cours, des campus sont bloqués. Les étudiants de l'ex-colonie britannique prennent peur, beaucoup préfèrent retourner dans leur famille. Des tensions encore plus vives depuis la mort vendredi dernier d'un étudiant tombé quelques jours avant d'un parking à étage lors d'affrontements avec la police. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les États-Unis ont exprimé hier leur je cite, graves préoccupations et ont appelé à la retenue les forces de l'ordre et les manifestants anti-gouvernementaux. Le président américain Donald Trump a discuté hier soir par téléphone avec son homologue français. Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rencontrerait le 4 décembre à Londres avant le sommet de l'OTAN. La France, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'est dit hier extrêmement inquiète après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'agence dit avoir détecté des particules d'uranium naturel dues à des activités humaines dans un lieu non déclaré en Iran. Le nom du site n'a pas été précisé.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. En France, la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche a été mise à l'arrêt hier soir après un séisme.
Séisme le plus important survenu en France depuis 16 ans, de magnitude 5,4. Il s'est produit un peu avant midi, près de Montélimar, et a fait 4 blessés. Aucun dommage apparent n'a été détecté à la centrale par les premiers contrôles, explique EDF. On ne sait pas pour l'instant si cette centrale a été fragilisée, mais le séisme a été suffisamment important pour aller vérifier de plus près, Sandy Dauphin.
Chaque installation nucléaire est dimensionnée pour résister à ce qu'on appelle le séisme majoré de sécurité. On le calcule en prenant comme référence le plus gros tremblement de terre qu'ait connu la région de mémoire d'homme. Explication de Rémi Cateau de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
Traditionnellement, on considère que ça nous permet de remonter sur à peu près 1000 ans. Ce séisme, on l'augmente de 0,5 sur l'échelle de Richter. Et puis on le place juste en dessous du site.
Une norme renforcée depuis la catastrophe de Fukushima au Japon. La centrale de Cruas est conçue pour faire face à un séisme majoré de sécurité de 5,2 sur l'échelle de Richter. Ce seuil n'a pas été dépassé sur le site hier, insiste Rémi Cateau.
Le séisme qui a eu lieu n'a pas eu lieu en dessous de la centrale. En fait, ce qui compte, c'est l'accélération qui est vue par le site et le mouvement sous le site a été mesuré à peu près à 0,05 g, alors que le séisme pour lequel la centrale est dimensionnée est à peu près de 0,26 g. Donc on est très en deçà de l'accélération pour laquelle la centrale est dimensionnée.
Reste qu'un audit approfondi va être mené. On ne sait pas combien de temps la centrale va être à l'arrêt. L'autorité de sûreté nucléaire devra donner son feu vert avant le redémarrage.
Et à cause du tremblement de terre, 240 personnes ont été mises à l'abri cette nuit, selon la préfète de l'Ardèche. 3 gymnases ont été ouverts sur la commune du Teil, où les établissements scolaires seront fermés ce matin. Une quarantaine de rassemblements sont prévus aujourd'hui un peu partout en France, à l'appel des syndicats UNEF et Solidaire étudiants pour dénoncer la précarité des étudiants. Il y a 4 jours, un jeune homme de 22 ans en difficulté financière s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon. Il est toujours entre la vie et la mort. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, recevra ce matin Xavier Bertrand et Bruno Retailleau. Le président de la région Hauts-de-France et le patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, veulent interdire les listes communautaristes aux élections à 5 mois des municipales, Stéphane Robert.
À l'origine de la volonté de légiférer de ces deux hauts responsables de la droite française, il y a l'intention d'un parti politique, l'Union des démocrates musulmans de France, de déposer des listes dans une 50aine de villes au municipal de mars prochain. Il dénonce également les velléités d'implantation locale en France du parti Égalité et Justice, qui serait une émanation de l'AKP, la formation du leader turc Recep Tayyip Erdogan. C'est ce que Xavier Bertrand dira ce matin à Christophe Castaner. Il était l'invité de nos confrères de RTL ce week-end.
Moi, j'y viens avec des solutions pour pouvoir interdire à ces listes communautaristes de pouvoir se présenter aux élections. C'est ce que je vais proposer au ministre de l'Intérieur, très très clairement, sur les bases que j'avais notamment détaillées dans une interview. Il y a aussi Bruno Retailleau qui a fait des propositions qui vont exactement dans le même sens. S'il y a la possibilité, en travaillant ensemble, de trouver des solutions, vous savez quoi ? Ça vaut la peine.
Concrètement, Xavier Bertrand veut ajouter à l'article 4 de la Constitution l'obligation faite aux partis politiques de respecter la laïcité ainsi que l'égalité entre hommes et femmes. Pour Bruno Retailleau, le mécano juridique est plus complexe, mais il vise de la même manière à affirmer l'obligation pour les candidats de respecter le principe de laïcité, ce qui doit permettre, selon lui, de sanctionner un candidat qui soutiendrait des revendications fondées sur l'origine ethnique d'une partie de la population ou sur son appartenance religieuse. Les propositions de ces deux élus ne sont pas non plus dénuées de calcul et d'intention politique, puisque tous deux ont perçu le malaise du gouvernement et de la majorité face aux questions liées à l'immigration et à la crainte croissante du développement d'un islam politique en France.
Stéphane Robert, encore un peu plus de concurrence pour la plateforme de vidéos en ligne Netflix qui compte 158 millions d'abonnés dans le monde. Disney Plus est lancé aujourd'hui aux États-Unis par la marque aux grandes oreilles, une dizaine de jours après la plateforme d'Apple. Outre-Atlantique, les médias parlent même de guerre du streaming. Les précisions de notre correspondant Loïc Piala.
Disney a axé une grande partie de la promotion de son nouveau service sur le Mandalorian, une série exclusive inspirée de l'univers Star Wars, avec un coût estimé à 15 millions de dollars par épisode. Mais la firme californienne compte s'appuyer sur ses franchises les plus populaires pour développer rapidement sa plateforme. Disney espère séduire entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 5 ans. Bob Iger, le patron de Disney, est peut-être l'homme le plus puissant d'Hollywood et confiant, comme il explique à la chaîne CNBC.
Voilà près de 100 ans que nous créons du contenu que le monde entier aime. Ça nous donne un avantage sur le marché.
Netflix part avec plus de 10 ans d'avance. Le géant de la Silicon Valley s'est lourdement endetté pour produire du contenu et distancer ses rivaux Amazon et Hulu en attendant l'arrivée de Disney+, mais aussi l'an prochain, de HBO Max, la plateforme de Warner Bros., et Peacock, celle de Universal. Reed Hastings, le PDG de Netflix, interviewé par le New York Times.
Les consommateurs aiment le streaming, alors tous les grands médias s'y mettent. Ça va nous faire de la concurrence, mais nous en avons déjà beaucoup.
L'an dernier, le nombre d'abonnés à des plateformes de streaming a pour la première fois dépassé celui des abonnés au câble et au satellite. Les goûts des consommateurs changent. Disney et les autres ne veulent pas rater le bon wagon.
Et cette nouvelle plateforme arrivera en France en mars. Le groupe ne cesse de s'étendre depuis ses rachats de Marvel, Lucasfilm et de la Fox. Disney toujours plus, c'est un article de Fiona Mogadam à lire sur notre site franceculture.fr. Des nuages encore toujours en ce 12 novembre avec des averses prévues sur une grande partie du pays selon Météo France. Un peu de soleil quand même, des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il fait ce matin entre -2 et 0 degrés sur le centre-est, jusqu'à 10 près de la Méditerranée. Comptez au maximum 7 degrés à Lille, 8 à Paris et Strasbourg, 10 à Brest et Lyon, 12 à Bordeaux et 17 degrés à Nice, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.